tout cet été, vous allez retrouver sur France Culture, entre midi et midi et demi, des séries sur des intellectuels, des personnalités états-uniennes dont la pensée nous nourrit encore aujourd'hui. Les semaines qui viennent, Toni Morrison, John Rawls, Judith Butler, Frank Lloyd Wright, Ayn Rand, John Dewey et Susan Sontag. Et cette semaine, pour débuter, une pionnière.
Puisque nous sommes dans les choses de la mer, je voudrais vous signaler une traduction par Anne de Cambiasi du livre américain de Rachel Carson, « Là où finit la mer » chez Amiot Dumont. Il s'agit typiquement d'une lecture de vacances. Bien présentée sous une couverture genre club, l'ouvrage de Rachel Carson est une passionnante introduction à la connaissance scientifique de la faune marine et sous-marine. Mais plus souvent qu'on ne le croit, la science est proche de la poésie pure. Rachel Carson a raison, ce monde qui est le nôtre contient encore quelques merveilles.
Avoir raison avec Rachel Carson, justement, née en 1907 en Pennsylvanie et décédée d'un cancer en 1964, elle est une pionnière dont la réputation n'a cessé de croître depuis sa mort. Biologiste marine, elle est devenue très célèbre aux États-Unis dès les années 1950 pour une trilogie de livres sur la mer. Sa reconnaissance internationale ne fut complète qu'avec la parution en 1962 aux États-Unis de Silent Spring, Printemps silencieux, dans lequel elle dénonçait l'usage des pesticides et de la d'été sur l'environnement et sur la nature. Elle devient d'ailleurs, à ce moment-là, le modèle de ce qu'on appellera bien plus tard, évidemment, dans notre période, les lanceurs d'alerte. Toute la semaine, nous déclinerons plusieurs aspects de la personnalité de Rachel Carson avec l'historienne Elsa Devienne. Demain, la journaliste Marie-Monique Romain, mercredi, l'universitaire Gélare Ivar Jaounzouz, jeudi, et la philosophe Catherine Larrère. Ça sera la dernière émission vendredi. Mais pour commencer ce midi, Baptiste Lanaspez, fondateur des éditions Wild Project et éditeur de Rachel Carson en France, est avec nous. Bonjour Baptiste Lanaspez.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Aix, que nous remercions de vous accueillir. Vous êtes donc l'éditeur en France de deux des livres de Rachel Carson, La mer autour de nous, dont on va parler tout de suite, avec une préface de David Pauly et une postface de Tara Océan, et également le fameux Printemps silencieux avec une introduction d'Al Gore. Comment vous est venu l'intérêt pour cette personne qui était souvent citée dans beaucoup de livres sur l'écologie, c'est un peu la spécialité de votre maison, et qui malheureusement n'était plus disponible en français dans les années 2000?
Alors oui, effectivement, ça nous ramène à 10 ans en arrière, cette histoire. Donc je m'apprête à fonder une maison d'édition qui veut se consacrer à l'histoire intellectuelle de l'écologie, ou on va dire à l'écologie comme un mouvement intellectuel, culturel. Et ça paraît d'une banalité affligeante aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'était assez original. Je m'évertuais à expliquer ça aux journalistes que je rencontrais, leur disant, voilà, il y a besoin d'une maison d'édition qui prenne l'écologie au sérieux, parce qu'on a un peu d'un côté des écologistes militants, mais qui n'ont pas forcément creusé l'histoire culturelle du mouvement de l'écologie, et de l'autre, des gens, des académiques, des universitaires qui, eux, tiennent l'écologie pour un sujet uniquement politique, on va dire un petit sujet de société. Mmh. Et donc, ça manquait d'espace entre les deux. Et il se trouve qu'au moment où je crée la maison d'édition, je pensais commencer avec Arne Næss, le fondateur norvégien de l'écologie profonde. Et je me rends chez des confrères qui tenaient une agence littéraire pour leur dire que voilà, je ne suis plus éditeur chez Autrement, où j'étais avant, mais maintenant je crée ma maison d'édition qui va être consacrée à ça. Et je leur demande s'ils ont des livres dont les droits étrangers seraient disponibles, qui pourraient être intéressants pour ce projet. Et parmi les premiers livres qui me posent sur la table, je vois Printemps silencieux. Donc là, je tombe de ma chaise parce que j'avais suffisamment quand même travaillé sur le sujet pour savoir que dans n'importe quelle chronologie de l'histoire de l'écologie, Printemps silencieux, c'est le moment pivot en 1962 où tout d'un coup l'écologie bascule d'une science vers un mouvement social et politique. C'est une clé de voûte, c'est un moment bascule dans l'histoire de cette grande histoire de l'écologie qui traverse le XXe siècle jusqu'à nous. Et donc je lui dis, mais attendez, les droits de Printemps silencieux sont disponibles? Elle me dit oui, ils sont disponibles depuis environ 1974. Le livre avait été traduit à l'époque, juste après sa parution en 62 en France. Mais bon, voilà, après il avait été oublié, pilonné, et puis voilà,
ce
il
est resté dans la nature pendant. Ce qui est étonnant, c'est que 1974, c'est une des grandes dates justement de l'histoire de l'écologie en France, avec la candidature de Dumont à la présidentielle, et d'une certaine façon la manière de se lancer justement pour l'écologie dans la sphère politique. Et c'est à ce moment-là effectivement que les droits de Rachel Carson restent disponibles.
Oui, c'est ça. Le livre n'est plus tellement lu. Il faut dire aussi qu'à l'époque, c'est une chose peut-être un petit peu américaine pour les gens, Rachel Carson. Donc le livre, voilà, encore une fois, il a été publié, il est passé en poche, il a été lu par quelques personnes. Hein, c'est pas, voilà, mais il n'a pas eu un impact. Et plus le temps passe, plus les années, plus on recule, plus on prend l'ampleur de ce livre et de l'impact de ce livre sur le mouvement écologiste. Et alors pour moi, c'est évidemment une nouvelle extraordinaire. Vous imaginez, quand vous créez une maison d'édition, vous avez à peine deux ou trois titres dans votre escarcelle. Donc je tombe sur Printemps silencieux. C'est une fabuleuse nouvelle à deux titres. D'abord parce que ça me permet de démarrer la maison d'édition avec le livre fondateur du mouvement écologiste. Mmh. Et puis, en plus, le fait que ce livre ait été non disponible et non traduit en français pendant, on va dire, plus de 30 ans, c'est la preuve indubitable, quand je m'adresse encore une fois au reste du monde, à la presse, aux journalistes, aux gens, etc., c'est la preuve qu'il y a eu un désintérêt collectif absolument massif et coupable de la part des milieux intellectuels français pour l'histoire de l'écologie. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun éditeur, c'est une espèce de faute collective énorme, il n'y a eu aucun éditeur entre 1975 et 2010 pour se dire qu'il fallait que le livre fondateur du mouvement écologiste soit disponible en français. C'est-à-dire que ça manifeste un truc génial. C'est
incroyable. Pour avoir raison avec Rachel Carson, puisque c'est le titre de notre série en l'occurrence. Donc ce livre, c'est l'acte de naissance du mouvement écologique, mais d'une certaine façon, on va apprendre que Rachel Carson n'est pas que l'autrice du Printemps silencieux, qu'elle publie donc 2 ans avant de décéder d'un cancer en 1964. Donc c'est en 1962 que paraît aux États-Unis le Printemps silencieux, mais qu'elle a aussi une œuvre. Et vous allez vous attacher justement à essayer de montrer qu'il n'y a pas que ce livre dans la bibliographie de Rachel Carson, Baptiste Lanaspez.
Alors effectivement, les choses se passent un peu en deux temps, dans la découverte, la redécouverte en France, par moi-même, par mes collègues, les lecteurs, les gens, l'UNESCO qui fait un événement en 2012, etc. Cette redécouverte de Rachel Carson se fait un peu en deux temps. Le premier temps, c'est d'abord la compréhension de ce que raconte Al Gore. Il faut en dire un tout petit mot parce que c'est trop important. En fait, pour Al Gore, Rachel Carson est une égérie absolue.
Alors il faut rappeler qui est Al Gore pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Al Gore, la vie politique aux États-Unis. Voilà, le futur
ex-président des États-Unis, donc à la place de George Bush. Effectivement, Al Gore est un homme politique américain qui, de 1985 à 2005, a un truc dans la vie, une passion dans la vie, c'est de construire politiquement la cause du changement climatique. Parce qu'il voit, il est au premier rang des experts qui sont au courant de ce qui se passe et simplement construire un plaidoyer pour que le monde entier sache que le réchauffement climatique existe. C'est le grand œuvre d'Al Gore, c'est l'œuvre de sa vie. Et pour construire ce plaidoyer, qui ça lui a pris encore une fois, voilà, une décennie ou deux, il s'est vraiment modelé sur la façon dont Rachel Carson avait procédé avec les pesticides, puisque c'est vraiment à quelques décennies d'écart une même logique de faire rentrer dans la citer la conscience, la compréhension d'un phénomène écologique très grave, majeur. D'ailleurs, c'est assez intéressant que dans les deux cas, ils ont eu un certain succès dans la construction de leur plaidoyer.
Mais postérieur.
Maintenant, on parle des... Mais en même temps, la question n'a pas été pour autant réglée, ni dans le cas des pesticides, ni dans le cas du réchauffement climatique. Mais je referme la parenthèse. Donc, il y avait cette compréhension de l'importance de Rachel Carson pour Printemps silencieux. Mais bien souvent, les gens se sont arrêtés là. Et il n'était pas très compliqué de creuser un tout petit peu plus loin pour se rendre compte que Printemps silencieux, en fait, n'était que le deuxième étage d'une fusée qui comportait un énorme premier étage. La raison pour laquelle Rachel Carson s'était intéressée à ces questions de pesticides, la raison pour laquelle elle était très bien placée pour comprendre les phénomènes biologiques et écologiques, les problèmes écologiques que posaient les pesticides, la raison pour laquelle elle a pu consacrer quasiment une décennie à enquêter sur ce sujet, tout ça, c'est parce qu'elle était déjà, 10 ans plus tôt, devenue une écrivain de best-seller installée aux États-Unis, avec toute l'indépendance économique que ça peut représenter, puisque en 1951, elle avait donc publié cet ouvrage « La mer autour de nous », qui avait été déjà un best-seller, c'était vendu à 1 million d'exemplaires, qui avait été traduit en 30 langues, qui avait donné lieu à un documentaire qui avait gagné un Oscar, et donc elle était tout à fait autonome financièrement.
Il faut rappeler aux Français, effectivement, qu'on est à peu près à la même période où en France, on découvre les travaux de Cousteau, ces films autour de la mer, etc., etc. Ça fait partie aussi de cette découverte de la nature, d'une certaine façon, qui est concomitante dans beaucoup de pays du monde.
Alors, oui, alors si je me trompe pas, le monde du silence, qui donc lui remporte la Palme d'Or à Cannes, il me semble, c'est en 57. Mm-hmm. Et donc là, on est quand même 6 ans avant,
bien sûr,
avec Rachel Carson. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est un, enfin, la question de l'océan commence à émerger après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où l'océan apparaît. L'océan n'est pas encore victime de la surpêche comme il va l'être dans les décennies qui vont suivre. Donc l'océan est beaucoup plus peuplé de, oui, de poissons, de vie marine qu'aujourd'hui. Et il apparaît un petit peu comme ce que, dans une perspective coloniale américaine, on appellerait une nouvelle frontière, mm-hmm, c'est-à-dire un espace, voilà, sauvage, absolument illimité, qu'on peut
exploiter,
dans lequel on peut taper, ouais, qu'on peut taper sans limite. Et c'est ce moment, effectivement, où on cherche à rassembler toutes les connaissances en océanographie pour essayer de brosser un tableau général de ce vaste monde illimité qui est en fait notre planète, puisque, comme on le répète tout le temps, la planète Terre devrait plutôt s'appeler la planète mer si on regarde en kilomètres carrés occupés par la mer. Et donc, ce que fait Rachel Carson, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de republier La mer autour de nous, qui lui aussi avait déjà été traduit en français puis oublié, c'est suite à une conversation avec Christian Sardet, un biologiste qui est l'un des biologistes embarqués principaux de l'expédition Tara, vous savez, qui a fait un inventaire il y a quelques années, un inventaire des planctons du monde, des planctons océaniques du monde. Et je parlais avec Christian Sardet en lui disant, écoute, j'ai lu La mer autour de nous, moi j'ai trouvé ce livre merveilleux, merveilleusement intéressant, il m'a appris des milliards de choses un peu sur tout ce que vous voulez savoir sur l'océan, sans oser le demander. Mmh. Et je lui dis, mais est-ce que ça a du sens pour toi de republier ça aujourd'hui? Est-ce que c'est pas vieillot? Parce qu'il y a plein de choses qui ont évidemment changé scientifiquement. Et lui, il m'a dit cette chose étonnante. Il m'a dit, en fait, comme Rachel Carson était éditrice, et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle a commencé sa carrière au bureau des pêches dans les années 30 en faisant des émissions de radio. J'ai noté le nom de l'émission, ça s'appelait Romance Under the Waters, Romance sous les eaux. Mmh. Et donc, c'est parce que ces émissions étaient si pédagogiques, étaient si réussies, qu'ensuite, elle est devenue rédactrice au Bureau des Pêches. Et donc, elle était dans cette situation de synthétiser, de vulgariser des tas de résultats scientifiques venant de tas de sous-sciences différentes. Et Rachel Carson, c'est vraiment ça. C'est l'alliance de la plume, l'intelligence littéraire, puisqu'elle est à moitié littéraire, à moitié biologiste, par sa formation et par ses goûts. Et donc, Rachel Carson a cette faculté à agglomérer, en allant dans toutes les sciences et les sous-sciences de l'écologie marine, qui est un vaste domaine, elle a une capacité à brosser un tableau global de l'océan. Et ce que me disait Christian Sardet, c'est évidemment, il y a plein de sous-domaines dans lesquels on a avancé, mais un livre qui propose un tableau aussi panoramique de ce que c'est que l'océan, on n'a pas fait mieux depuis 1951, La mer autour de nous.
Il faut dire d'ailleurs que dans cette période des années d'après Seconde Guerre mondiale, les grandes opérations océanographiques se développent. On va essayer de comprendre, par exemple, ce qu'est la dérive des continents. On va essayer de comprendre ce qu'est la dorsale atlantique. Et donc, et c'est ce qu'elle raconte d'ailleurs dans La mer autour de nous. On va envoyer des navires pour pouvoir mesurer la profondeur des océans et en particulier de l'océan Atlantique. Pourquoi? Comprendre comment cet océan est bien plus profond qu'on ne le croit la plupart du temps. Et c'est le moment, effectivement, où on développe les relations transatlantiques en matière de communication. Les câbles sous-marins continuent à être posés entre le continent américain et l'Europe et l'Afrique, par exemple, Baptiste Lanaspez.
Tout à fait, oui. La Deuxième Guerre mondiale a été un grand moment de navigation et de progrès de l'industrie. Et c'est de façon d'ailleurs relativement tragique, mais on a passé beaucoup de temps sur les océans avec des bateaux à mesurer des tas de trucs pour des raisons militaires. Et à partir de là, on va rentrer dans ce que certains historiens ont appelé le Thanatocène, c'est-à-dire l'ère de la grande destruction massive des milieux. Et évidemment, cette conquête scientifique de la mer va de pair avec une conquête économique et aussi en termes de pêche. C'est vraiment le début de la fin. En termes de surpêche. Et là-dessus, à ce moment-là, il faut absolument dire un mot du fait que La mer autour de nous est devenue aujourd'hui, en 2020, depuis une dizaine d'années, le nom d'un gigantesque programme de recherche absolument aux dimensions colossales, menée par Daniel Poli, qui est donc l'un des plus grands océanologues de notre temps et que certains d'ailleurs appellent le Rachel Carson de notre époque. Daniel Poli a monté ce gigantesque programme de recherche pour essayer d'évaluer la quantité de poissons présente aujourd'hui dans les océans de façon dynamique depuis plusieurs décennies pour voir comment ça évolue et comment est-ce qu'on peut concilier l'alimentation d'un nombre d'humains de plus en plus nombreux avec la sauvegarde de la vie dans les océans.
Et il l'a appelé effectivement du nom du titre du livre de Rachel Carson, La mer autour de nous.
Exactement, oui, mais sauf qu'entre La mer autour de nous, le livre de Rachel Carson de 1951, et La mer autour de nous, The Sea Around Us, le nom du programme de recherche de Daniel Poli qui est lancé en 2010, si vous voulez, le demi-siècle qui s'est écoulé marque une modification absolument tragique de l'état des océans. Donc c'est pas le même océan dont parle Rachel Carson en 1951 et celui que inventorie Daniel Pauly en 2010.
Et d'ailleurs, vous nous parliez tout à l'heure, Baptiste Lanaspès, des qualités d'écriture justement de Rachel Carson. On en a un petit exemple. Elle décrit un oiseau qui s'appelle les phalaropes.
Pour la première fois depuis le début du printemps, on entend sur les prairies planctoniques de l'Atlantique Nord le cri saccadé des phalaropes, petits oiseaux bruns qui tournent dans tous les sens, touchant l'eau et s'en éloignant aussitôt. Ils ont fait leur nid dans les toundras arctiques, élevé leurs jeunes, et voici qu'ils commencent à revenir sur la mer. La plupart continueront cependant à survoler l'océan du large, loin des terres, vers le sud. Ils passeront l'équateur et arriveront au-dessus de l'Atlantique Sud, où ils suivront les grandes baleines qui les conduiront aux lieux abondants en plancton dont s'engraissent ces étranges petits oiseaux.
Un extrait de La mer autour de nous de Rachel Carson. Je rappelle que vous écoutez une émission qui s'intitule Avoir raison avec Rachel Carson et on essaye avec Baptiste Lanaspès, qui est éditeur de Rachel Carson en France aux éditions Wild Project, de comprendre quelle est la complexité de cette personne née en 1907 aux États-Unis, morte en 1964 après un cancer et qui est devenue célèbre, non pas pour ce livre en France, en tous les cas, qui s'appelle La mer autour de nous, mais pour un autre livre dont on parlera beaucoup pendant toute la semaine, qui s'intitule Printemps. Un temps silencieux, qualité d'écriture en plus de la qualité effectivement de la documentation, Baptiste Lanaspès.
Alors oui, Rachel Carson est avant tout une littéraire et c'est un point qui dont parle très bien Stéphane Durand qui a donc fait la préface la première édition de La mer autour de nous. Stéphane Durand qui est le co-scénariste de Jacques Perrin, notamment du film Océan, et qui a des mots très justes parce qu'il est lui-même dans cette position-là en tant que scénariste et écologue. Il est lui-même dans cette position-là d'articuler voilà un verbe clair qui met en ordre tous les savoirs récents mis en place par l'écologie. Et c'est vraiment ça le rôle historique que joue Rachel Carson, si vous voulez. Avant elle, il y a bien des naturalistes, il y a des gens qui aiment la nature, il y a des écologues qui étudient les écosystèmes. Mais l'écologie n'est pas encore rentrée dans la cité comme un enjeu politique. Et donc c'est par la médiation de sa plume, de sa verve, que tout d'un coup les savoirs accumulés depuis 2-3 décennies par l'écologie vont accéder au grand public, d'abord sous l'angle de l'émerveillement avec la question de la mer, donc dans La mer autour de nous, 51, et puis 10 ans plus tard, sous l'angle de la dénonciation avec cette gigantesque enquête contre les pesticides.
Oui, ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, dans l'archive qui a permis d'ouvrir cette émission, on parlait de Là où finit la mer, paru en français en 1957 et qui s'appelle The Edge of the Sea en 1955, et le chroniqueur disait que c'était une très bonne lecture de vacances. C'est vrai que c'est une très bonne lecture de vacances, mais que lorsqu'on se plonge dans l'œuvre de Rachel Carson, on y découvre aussi bien de la profondeur, en particulier de la précision documentaire. Et c'est là où sa formation de biologiste marine, passée par l'université de Johns Hopkins, ça n'est pas rien dans la façon dont elle parle de la nature, de l'environnement, de la mer et de également des oiseaux qui disparaissent dans Printemps silencieux.
Oui, alors un point important à rappeler aussi, c'est que le savoir que Rachel Carson accumule, bon, c'est un petit peu une surdouée, hein. Elle réussit brillamment tous les concours. À l'époque, il y a peu de femmes à l'université, mais donc elle picore dans des tas de savoirs qui relèvent de l'écologie aquatique et de l'écologie marine. Et elle arrive à produire des contenus qui soient synthétiques, qui sont clairs. Et il est important de voir qu'elle fait tout ça depuis le bureau des pêcheries, le Bureau of Fisheries aux États-Unis. Et c'est pas du tout neutre parce que la question de la pêche, tout comme la question de l'agriculture plus tard dans Printemps silencieux, c'est bien la question de la façon dont on ponctionne les ressources naturelles. Et donc la question de la pêche comme de l'agriculture, c'est la même question, c'est la question de l'insertion de l'homo sapiens qui doit bien s'alimenter dans la chaîne des vivants. Et c'est pas du tout un hasard. On n'est pas dans un naturaliste complètement contemplatif qui serait détaché de la question des ressources. Rachel Carson, dans sa formation, dès le début, dans toutes ses premières années professionnelles, est confrontée à la recherche de cet équilibre entre s'alimenter, taper dans les ressources, prendre dans les stocks et en même temps comprendre le fonctionnement de ces stocks pour s'insérer plus habilement à l'intérieur. Et ce savoir-là, ça paraît d'une banalité confondante de parler de ça aujourd'hui, mais il faut bien voir qu'à l'époque, dans les années 50, on est en plein triomphe de l'économisme à tout craint, de la technique, du développement, et cette idée que il doit y avoir une humilité dans la façon dont l'humanité s'insère dans les chaînes et dans les écosystèmes et dans les chaînes trophiques, à l'époque, c'est complètement presque inaudible, je dirais, parce qu'en termes de valeur, en termes de philosophie, que ça paraît à rebours de... On est dans les années Mad Men, vous avez tous vu la série, vous voyez un peu l'ambiance. Imaginez Don Draper, à qui on raconte qu'il faut s'insérer habilement dans les chaînes trophiques.
Oui, et de toute façon, on est aussi dans la période d'après la bombe atomique et de cette vision tout à fait positive de la science qui permettra de sauver l'humanité. Et on comprend tout de suite, en lisant en particulier l'introduction à La mer autour de nous de Rachel Carson, que vous avez publié, Baptiste Lanaspes, que ce qui caractérise Rachel Carson, c'est sa vision systémique.
Même s'il y a quelque chose de décourageant dans la manière dont l'homme a géré les ressources naturelles tout au long de son histoire, on se complaît depuis longtemps dans l'idée que la mer, elle, est inviolable, qu'elle est trop grande et trop puissante pour que l'homme puisse la transformer et la détruire. Malheureusement, cette croyance s'est révélée naïve. En découvrant les secrets de l'atome, l'homme moderne s'est retrouvé confronté à un problème terrifiant. Que faire avec le sous-produit de la fission atomique ? Le matériau le plus dangereux qui ait jamais existé dans toute l'histoire de la Terre. Comment se débarrasser de ces substances mortelles sans rendre la Terre inhabitable ?
Baptiste Lanaspes.
Alors cette préface de 61 est très importante parce que quand on lit La mer autour de nous, on se fait l'idée d'une Rachel Carson écologiste par définition, puisque voilà, c'est elle qui a ouvert le bal. Et quand on lit le livre qu'elle a publié 10 ans plus tôt, on est un tout petit peu désemparé parce que c'est pas le livre d'une écologiste, c'est le livre d'une naturaliste. Et la nuance est importante. Une naturaliste qui décrit de façon émerveillée tout ce qui compose les univers marins et toutes les merveilleuses connaissances scientifiques que l'humanité a accumulées sur ces univers marins. Mais il y a quelque chose, encore une fois, d'émerveillé dans la mer autour de nous. Et rien qui résonne de façon écologiste. Et 10 ans plus tôt, dans les décennies des années 50, Rachel Carson ne fait que travailler sur les pesticides et elle construit sa vision écologique du monde à ce moment-là. Elle comprend l'ampleur du problème à ce moment-là. Et donc, lorsque 10 ans plus tard, son logiciel, je dirais, a tellement changé qu'on peut plus laisser sortir la mer autour de nous juste dans la naïveté dont elle parle dans sa préface.
L'émerveillement qu'elle montre vis-à-vis de la mer auparavant, effectivement, elle y ajoute cette dose qu'on a compris dans cet extrait, cette dose de pessimisme sur le caractère systémique de l'action humaine sur le reste du monde.
Et oui, elle est en train de se rendre compte tout d'un coup que ce monde inviolé et apparemment illimité de l'océan est en train déjà de commencer à être détruit en partie. Et donc, la naïveté dont elle parle dans la préface, c'était bien la sienne qu'elle-même a dépassée.
Et donc, ce livre « La mer autour de nous », dans sa nouvelle préface, paraît juste un an avant le printemps silencieux. Pendant tout ce temps, que fait-elle ? Elle prépare des dossiers. Elle se renseigne en lisant les bibliographies autour de la question justement des atteintes à la nature par l'intermédiaire de ce qu'elle appelle des biocides et qu'on appelle à l'époque des insecticides.
Alors oui, c'est-à-dire qu'elle a bien conscience d'être sur un gros sujet. Monsanto est déjà à l'époque une gigantesque entreprise. La question de l'utilisation des biocides, elle a raison de les appeler des biocides parce que ça détruit la vie, ça ne détruit pas que les choses nuisibles. Elle voit bien qu'à l'époque, personne ne s'oppose à l'utilisation des biocides et que donc il s'agit d'un dossier sur le plan industriel qui est extrêmement délicat. Et donc elle va construire une enquête à base de bibliographie, mais aussi de travail de terrain, d'entretien hyper nombreux. Elle va construire un dossier qui soit elle va chercher à être son dossier soit parfait parce que la moindre erreur de la part d'une écrivain qui a une notoriété colossale, la moindre erreur là-dedans serait une brèche pour une contre-attaque. Alors d'ailleurs, le dossier est tellement parfait que la seule brèche que trouve Monsanto, c'est de dire que c'est juste une hystérique. C'est des propos d'une femme hystérique qui la renvoie à son sexe, à son genre, parce qu'il y a le dossier est vraiment impeccable. Alors dans la légende, dans la geste carsonienne, on a des images du président Kennedy qui, quelques mois après l'apparition du livre, le livre a un tel retentissement que voilà, Kennedy ouvre une enquête pour voir si les faits dénoncés dans le livre sont réels. Et effectivement, l'intégralité de ce qui avait été établi par Carson se révèle vrai. Donc c'est plus qu'un livre, c'est pas un essai, si vous voulez, c'est vraiment une enquête à charge qui, ouais, c'est quasiment les pièces d'un procès, en fait, Printemps silencieux. Sa force.
Ce qui a été rendu possible, justement, par le succès d'écrivain de Rachel Carson. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que elle prend son indépendance. Elle ne sait pas encore qu'elle va mourir bientôt, puisqu'elle mourra en 64. Mais elle prend son indépendance à partir du milieu des années 50 parce que ses livres se vendent tellement bien et les adaptations de ses livres également qu'au bout du compte, elle peut tranquillement arrêter de travailler là où elle travaillait auparavant pour pouvoir se consacrer entièrement à cette grande enquête qui va devenir Printemps silencieux.
Oui, tout à fait. L'autonomie financière est une condition absolue à l'écriture de Printemps silencieux, à la fois en termes de temps et aussi en termes de capacité de lanceur d'alerte à faire pression, parce que il faut bien être indépendant pour attaquer Monsanto comme elle le fait. Et donc, effectivement, c'est dès 51, 1 million d'exemplaires, c'est l'autonomie financière assurée. Donc, c'est cette... voilà. Stéphane Durand a une jolie formule dans la préface. Il dit que l'océan est la matrice du mouvement écologiste, puisqu'effectivement, c'est vraiment grâce à l'océan et à la mer autour de nous que Printemps silencieux a pu paraître.
Et l'océan et Rachel Carson est la matrice de White Project, votre maison d'édition. Vous pouvez nous dire comment se vend, enfin, comme le disent souvent les éditeurs, on espère que vous allez nous donner des bons chiffres, parce que souvent ça n'est pas le cas. Comment se vend Rachel Carson après la publication à partir de 2009 de Printemps silencieux encore aujourd'hui? Est-ce que c'est une vente en croissance, alors que c'est un livre déjà très ancien, ou ce sont des livres très anciens, avec la mer autour de nous? Qu'est-ce qui se passe autour de Rachel Carson qui nous donne envie, d'une certaine façon, de faire cette série d'émissions Avoir raison avec Rachel Carson?
Alors effectivement, c'est avant de répondre à la question des ventes, c'est vrai que Rachel Carson occupe une place pivot dans l'histoire de l'écologie, on l'a dit, et elle occupe du coup également une place pivot dans notre catalogue. Et en préparant l'émission aujourd'hui, je m'étonnais de voir à quel point ces deux livres-là, La mer autour de nous et Printemps silencieux, tissaient de nombreux liens avec d'autres figures du catalogue. Donc Tara Océan en a parlé, Stéphane Durand en a parlé aussi, Arne Naess, le fameux philosophe de la deep ecology qui est tant décrié, a eu cette phrase formidable. Il a dit, c'est pas moi qui ai inventé l'écologie profonde, c'est Rachel Carson. C'est quand j'ai lu Printemps silencieux que j'ai compris qu'il fallait distinguer l'écologie superficielle, shallow, à l'écologie profonde, une véritable écologie qui change nos valeurs et notre vision du monde. Donc Rachel Carson est vraiment un des centres d'où tout rayonne. Et c'est fabuleux de voir que depuis qu'on a réédité ce livre et ceci grâce à plein d'acteurs concurrents, c'est pas simplement nous, hein, mais grâce à plein d'acteurs, l'aura de Rachel Carson ne cesse de grandir, les conversations à son sujet ne cessent d'être plus intéressantes et plus riches. C'est très étonnant en disant comment sa présence est devenue plus forte dans notre vie intellectuelle.
Et comme tout bon éditeur, vous n'avez pas répondu à ma question qui est de savoir combien vous vendez d'exemplaires.
Justement, c'était la punchline. Et que donc, effectivement, Printemps silencieux est l'un des seuls livres dans mon catalogue dont la courbe monte au lieu de descendre. C'est-à-dire que normalement, vous publiez un livre et ensuite la courbe, tout doucement, va descendre. Vous voyez, alors il y a des courbes qui descendent immédiatement, d'autres qui descendent plus longtemps après. Il y a des courbes qui se maintiennent. Quand on publie un classique, la courbe se maintient à un niveau égal, mais la courbe de Printemps silencieux monte. C'est-à-dire qu'on en vendait, une centaine d'exemplaires par mois les premières années, ce qui est déjà très honorable. Aujourd'hui, on en est à 300 par mois, 10 ans plus tard. Donc c'est vrai que c'est un livre dont le destin est... très étonnant.
Eh bien, justement, ce destin de ce livre, nous en parlerons toute la semaine avec nos autres invités d'ici à vendredi. Elsa Devienne, l'historienne demain, la journaliste Marie-Monique Robin, qui a reçu le prix Rachel Carson mercredi, l'universitaire Gélaré Ivar Jaranzouz jeudi, et Catherine Larère, la philosophe, vendredi. Merci à vous, Baptiste Nanaspès, directeur des éditions Y Project, d'avoir été avec nous depuis les studios de Radio France. Il faut remercier également France Bleu à Aix qui vous ont accueilli. Mathieu Casanas était avec vous à la technique. C'était Avoir raison avec Rachel Carson, à Paris à la technique Nicolas Delmas, à la réalisation Assia Ralid, et également la lecture des textes par Assia Ralid. Recherche musicale à la discothèque de Radio France, François Merlin. Demain donc, la place de Rachel Carson dans l'histoire environnementale aux États-Unis.